Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
C'est ça les grandes gueules du sport. On ouvre des sujets profonds sur le fonctionnement de nos sports nationaux et puis on prend le temps si ça le mérite et on prend vos messages évidemment sur WhatsApp et au 32-16. Vous êtes nos grandes gueules du sport. On est avec Julien Beneteau, avec Sarah Pitkowski, avec Christophe Cessieux, avec Fred Weiss qui met souvent en avant d'ailleurs les on a tellement de licenciés en basket et tout ça, on a tellement d'argent. Donc là ça te parle hein, les sujets comme
ah
ça.
Bah sur oui, complètement. Et puis les problèmes dans une fédération, ça me parle aussi.
Ah oui. On aura l'occasion d'en parler.
On aura l'occasion d'en parler.
Et oui, mais évidemment. Et puis vous avez forcément.
C'est 500 000, 600 000
non, 770 000, nous.
770
000. Non, on a une très grosse fédération, mais il n'y a pas beaucoup d'anciens sportifs qui font partie de cette fédération. Et c'est bien dommage.
Non, mais ça, c'est un vrai sujet à faire, d'ailleurs. Sujet, bientôt ouais. Sur l'apport des anciens sportifs.
Tu vois, tu me trouves calme aujourd'hui, mais je pense que si on évoque ce sujet, ça
risque d'évoluer un peu. T'étais un peu énervé, là, tout de suite. Ouais. Non, mais on en parlera, tiens, sur le poids, peut-être parfois trop faible, des anciens sportifs dans les fédérations et sur les politiques fédérales. À quel point, en France, on écoute les anciens sportifs, et notamment les grandes gueules du sport. C'est pour ça que vous êtes là autour de la table, et c'est pour ça que vous nous écoutez de plus en plus nombreux, parce que c'est votre franc-parler qui fait mouche. Allez, dans un instant sur le buzzer. On va parler de Marseille qui reçoit le Paris FC ce soir en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Genesio dit qu'il serait irresponsable de fixer des objectifs trop élevés. Le coach marseillais est-il trop prudent? On va parler d'un sport de haut niveau tiens, en général. Est-ce que quand on a des objectifs comme ça, ça marche vraiment dans un vestiaire? En fin d'émission, participez au jeu du sport, emportez votre cave à vin 12 silence de la sommelière. Une cave ultra silencieuse pour conserver vos meilleures bouteilles à bonne température et les servir dans les conditions idéales si vous invitez Christophe Cessieux chez vous pour emporter votre cave avant la sommelière, appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16 sport au 7-32-16. Bah, c'est ce que tu as dit hier. Qu'est-ce que toi, ça t'intéressait? On pouvait t'inviter si jamais. Ah, gagner la cave avant. Allez, tout de suite.
La cave est bien remplie.
Vous nous ouvrez la porte du vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Les GG cette semaine, ce qui m'a marqué, c'est en cyclisme. Avec l'absence de Pogacar sur la Vuelta, on se rend bien compte qu'il n'est pas si facile que ça de prendre la suite, d'assumer des responsabilités quand un grand patron n'est plus là. Même chose quand une grosse tête de série est sortie en tennis. Hein, on l'a vu, hein, y a plein de garçons qui soit sont pas là à l'US Open ou qui ont été sortis là prématurément en ayant peut-être un peu plus de responsabilités. Fritz s'est passé à la trappe hier. C'est le cas pour Cobolli aussi. Peut-être qu'ils avaient des possibilités. Finalement, ils se disent oh là là, on a des possibilités. Peut-être que ça peut couper les jambes quand on se rend compte que ça devient possible. Même chose en Ligue 1, quand une grosse cylindrée ne marche pas et qu'il faut assumer derrière pour prendre la place. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça. Prendre le leadership dans le sport de haut niveau, ce n'est pas si simple. Fred, quand je t'ai proposé ce vestiaire, ça t'a parlé rapidement. On n'est pas leader comme ça, en fait.
Bah non. En fait, déjà, prendre le leadership, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, on est habitué d'être un second, voire plus loin, et dans le basket parfois c'est difficile parce que il faut que ça soit crédible. Quand tu parles à tes coéquipiers, tu peux pas par exemple leur expliquer des choses quand c'est pas toi le leader naturel et que ils ont pas l'habitude de voir ça. Donc il faut que déjà
t'en as vu
c'est ce caractère. Moi j'ai vu
des joueurs mecs, qui faisaient les leaders.
En fait tu les vois et tu dis mais il fait du théâtre, en fait je n'y crois pas, c'est drôle, enfin c'est nul. On sent que le mec a besoin, parce que on a tous besoin d'un leader, c'est comme ça, la nature humaine est faite ainsi. Et c'est vrai que quand tu vois quelqu'un qui surjoue, qui tente d'être le leader, eh ben ça devient plus crédible et finalement ça devient presque risible et il perd toute autorité. Et c'est le contraire de ce qu'il voudrait provoquer. Donc ouais, je l'ai vu plusieurs fois, des garçons qui n'avaient pas ça en eux, qui étaient des silencieux, qui étaient capables de très bien jouer au basket.
Quand ils sont mis en avant, ils s'effondrent un peu quand même.
Ils s'effondrent parce que en fait déjà ça leur fait un double taf. Parce que d'un seul coup, ils doivent se gérer et gérer l'équipe.
Alors qu'ils n'arrivent pas forcément déjà à se gérer.
Voilà, c'est ça. Et c'est extrêmement difficile. Mais c'est aussi parce que c'est pas naturel chez eux. Il y a vraiment cet instinct de leader qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais par contre, moi, j'ai découvert, par exemple, un leader extraordinaire en la personne de Yann Bonato.
Yann Bonato, à l'époque à Limoges.
À Limoges, on a des gros
soucis financiers.
C'est très, très compliqué. Et c'est un garçon qui est considéré comme un égoïste. Dans le milieu du basket jusqu'à cette époque-là, et d'un seul coup on se retrouve dans une situation extrêmement compliquée, comme j'ai dit, où il y a des problèmes d'argent, où le club est à deux doigts de mourir tous les jours, et il a émergé un leader. il est devenu ce leader. Il a été cette personne qu'on a envie de suivre n'importe où. Cette personne qui gère, qui se gère lui, qui gère les dirigeants, qui gère le public, qui gère les joueurs, parce qu'on était payé 70% moins du salaire.
C'est un profil qui est apparu dans un moment compliqué, en fait.
Alors que vraiment, ce garçon n'avait rien du tout. Et il l'a fait sans surjouer. Et c'est ça qui nous a tous convaincus.
Et toi, t'as jamais été leader?
J'ai été co-capitaine en Espagne plusieurs fois et moi je suis leader plus par l'exemple entre guillemets, c'est-à-dire que par rapport à ce que je fais, par rapport à j'aime bien chambrer les adversaires, mais c'est vrai que si moi d'un seul coup j'avais fait un discours dans le vestiaire, c'était pas crédible parce que je suis pas le genre de mec qui prend la parole devant tout le monde, harangue la foule, etc. Mais par contre je suis quelqu'un qui t'encourage, je suis quelqu'un qui t'incite à faire mieux. Mais chacun, encore une fois, sa position.
Et t'as déjà été dans une situation avec ton équipe en Espagne, par exemple, d'un coup vous vous retrouvez en favori alors que c'était pas prévu, parce qu'en fait c'est ça ce qui se passe avec Pogacar sur la Vuelta.
C'est extrêmement difficile.
C'est-à-dire qu'il y a des seconds couteaux qui d'un coup doivent avoir un premier rôle.
Mais oui, et en fait tu te rends compte que tu es dans l'eau qui n'est pas la tienne, en fait. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Tu commences à te mettre une pression que tu n'avais pas. En fait, être outsider, c'est magnifique parce que justement tu peux te cacher un petit peu, tu peux être tranquille. Si tu fais une performance, c'est magnifique. Si t'en fais pas, tout le monde dira oui, mais il y avait des équipes qui étaient meilleures.
Toi, t'as joué à Malaga, qui n'était pas le grand club de basket en Espagne, c'est plutôt le Real ou le Barça.
Exactement, c'était le dans les quatre meilleures équipes d'Espagne. Mais effectivement, il y a le Barça et le Real qui sont devant. Et je me rappelle que par exemple à une Coupe du Roi, on élimine le Barça et donc on dit on va jouer contre Vitoria. Vitoria, normalement, c'est une équipe qui est de notre niveau ou à peu près. Et ben on s'est fait battre parce que d'un seul coup on s'est vu trop beau, d'un seul coup on s'est mis la pression, d'un seul coup on s'est dit on va le faire, on a éliminé le Barça.
Mais vous n'étiez pas prêt, en fait.
Et en fait, on n'était pas prêt.
C'était pas votre niveau.
C'est là que tu te rends compte qu'on avait peut-être surperformé contre le Barça. Ça nous avait fait croire à des choses. Et croire à des choses et se croire arriver dans le sport, tu prends la claque directement.
Hein. Non, mais on est dans le vestiaire. La difficulté de prendre le leadership, moi, ça me rappelle un souvenir. C'est le championnat du monde d'athlétisme, finale du 100 mètres, le faux départ du Usain Bolt. Souvenez-vous, alors qu'il était le grand favori. Puis là, je me rappelle la stupeur dans le stade, évidemment, mais surtout des autres concurrents. C'est Johan Blake qui avait été sacré champion du monde. Les autres concurrents étaient perdus, notamment Christophe Lemaître qui était là, qui d'un coup avait une possibilité extraordinaire de faire une médaille, mais même potentiellement d'être champion du monde. C'est-à-dire que t'es dans un monde inconnu d'un coup, brutalement, et tu dois assumer la responsabilité, Bennett. C'était déjà arrivé, toi, ça, de cette confrontation, avec la réalité de devoir endosser un rôle?
Non, mais là, ce que tu décris, c'est encore différent, parce que
c'est pas au sein d'un groupe.
C'est en général, c'est de devoir prendre un premier rôle, en fait, quand t'es pas programmé à ça, en fait.
Là, c'est soudain. Après, il y a deux choses différentes. C'est dans une compétition, comme tu dis là, un forfait ou la blessure de Pogacar, ou là nous dans le tennis masculin et même dans le tennis féminin, des tableaux très ouverts pour pouvoir gagner un grand chelem avec beaucoup de joueurs potentiels. Et il y en a qui se plantent. Et là, on l'a vu.
Toi, tu regardais le tableau avant, tu disais mon tableau, il est ouvert.
Moi, je regardais en grand chelem, je regardais pas trop le tableau, parce que j'étais pas souvent tête de série. Quand j'étais tête de série, je savais qu'à un moment donné, ça se bouchait. Et moi, ça s'est toujours bouché. J'ai joué 8 fois de suite au 3e tour une tête de série entre 1 et 8. Donc
parfois, tu peux regarder le tableau et te dire ah, peut-être que j'ai une opportunité.
Non, mais ça peut
te mettre la pression, justement.
Oui, ça peut te mettre la pression.
Mais ça se fait pas. Parce que tu vois un match après l'autre. Enfin,
surtout, c'est tellement loin.
Ah oui.
Mais tu vois là, les OG Eliassim, Fritz, Jodar, Arthur Fils. Oui, avant le tournoi, ils étaient propulsés dans une autre sphère de potentiels vainqueurs. Et effectivement, là, le rôle de l'entourage, il est hyper important dans la préparation, peut-être changer un petit peu de discours et de dire. Okay,
mais justement, changer de discours, pas conserver justement.
Il y a une possibilité.
Tu vois, c'est la vraie question dans votre sport. Est-ce que quand tu commences à performer, tu changes de discours ou justement tu gardes le discours justement pour garder les pieds sur terre et avoir la même routine entre guillemets?
Parce que quand tu tapes Federer, par exemple, tu tapes Federer à Bercy, c'est ça? Tu peux te dire derrière, ouais, je viens de taper Federer.
Ouais, mais le lendemain, le problème,
je suis dans un autre monde.
Non, parce que le problème de notre sport.
Il faut que j'assume. En fait, j'ai une responsabilité à assumer.
Non, c'est non. Pas une
responsabilité. Comme Gasly qui d'un coup est en pole position. Ouais, je suis en pole.
Je savais que le match du lendemain, il allait être plus dur que celui de Federer. Quand je sors et que je le bats le mercredi soir, et il est 21h30, 22h, je suis dans les vestiaires. Je joue Gaël mon fils à 18h, le lendemain c'est à Bercy.
Mais c'est ton logiciel, ça peut, c'est potentiellement pas le logiciel de tout le monde. Il y en a qui peuvent gagner un Masters 1000 et se dire peut-être je suis arrivé.
Non.
Non. Quand tu réalises un exploit en tennis, tu sais que le coup d'après, tu vas devoir faire un exploit encore plus grand.
Parce que disait mondial,
ça se resserre et t'es les meilleurs à la fin.
Et c'était hyper dur de rejouer, de jouer Gaël. Et d'ailleurs, j'ai perdu. Mais parce que pour moi, Gaël, c'était avec mon style de jeu, c'était plus compliqué de dans la scène de Bercy, etc., que de jouer Federer.
Parce qu'en fait, ce que dit Fred, c'est un peu, c'est soit tu gagnes, t'arrives à surperformer, tu prends le boulard.
Mais c'est ça.
En fait, soit t'es confronté à un moment de leadership et t'es confronté à la réalité de ton niveau.
Moi, j'ai un exemple très concret, j'avais déjà l'équipe de France en 2019 bat les États-Unis dans la Coupe du Monde, d'accord? Donc tout le monde se dit que c'est fait, et eux-mêmes aussi. Ben, ils vont jouer contre l'Argentine, et ils vont perdre contre l'Argentine, en fait. Et en fait, c'est difficile d'un seul coup de passer de ben, c'est les États-Unis, c'est impossible qu'on gagne, tu gagnes, et le lendemain te remotiver et retrouver les ressorts qui t'ont permis de gagner contre une équipe qui est soi-disant plus faible que toi. Mmh. Et c'est là que je me pose la question dans le tennis. Si tu bats Djokovic, Federer, peu importe, est-ce que quand t'enchaînes, t'arrives à te dire ok, bah c'était juste une étape, ou à un moment tu dis ah, c'est Federer quand même.
Non, parce qu'on est vite
t'es vite dans le moment présent du match. Ouais. T'as pas le temps d'avoir cette réflexion là. Peut-être que quand tu fais un sport ou quand tu gagnes un titre de champion du monde ou un titre de champion d'Europe, t'as un laps de temps qui fait que tu digères. Il y a pas de digestion, encore une fois, même quand tu gagnes un tournoi. Ouais. Quand tu finis en gagnant un tournoi le dimanche soir et que tu dois rejouer le mardi, mais sur un tableau de 32, t'as 31 mecs ou 31 nanas qui ont envie juste de te cirer. Donc en fait, ton titre, il est déjà passé. Ce sera juste une ligne dans ton palmarès.
Ah oui, c'est hyper éphémère.
Et tu vois sur ton compte en banque ce qui se passe, mais en fait, tu remets tout à zéro.
Tout à plat,
t'as pas
vite,
le temps d'avoir
le temps.
La grosse tête.
Mais vous avez tous cette capacité, parce que moi, je trouve ça extrêmement difficile, parce que tu gagnes un Master 1000 qui est quand même une compétition incroyable. Et le lendemain, Arthur tu rejoins.
Mais là, Arthur tu te Fils. Retournes, t'as l'US Open.
Ouais, le problème, c'est ça. Ouais. Arthur Fils, il a gagné le dimanche. Il a dû partir le lundi de Cincinnati à New York. Il a pris un jour off, là. Et le mardi ou le mercredi.
T'es déjà.
Ouais, mais il est parti pas avec le même statut, en plus. Il est passé de.
Il est devenu un leader.
Exactement. Mais après, il y a. Des leaders.
Parce qu'il y a ça aussi pendant le match, par exemple. Excuse-moi, Bennett. Non, mais je réfléchis à son match pendant Tsitsipas, par exemple. Quand ça lui échappe, est-ce que dans sa tête, tu peux te dire non mais c'est pas possible, aujourd'hui j'ai atteint un rang, c'est la honte si je me fais sortir maintenant en fait. C'est ça en fait, où quand tu prends un certain leadership, ça peut aussi te freiner en fait.
Cette condition là, ton conditionnement mental au tennis, il est pas du tout là dedans.
Tu penses jamais à ça, pensez pas trop à ça. Parce que sur moi je me pose la question sur, mais c'est pas Fritz hier, je me suis posé la question, l'Américain quand il est sur le point Arthur Ashe, je me dis mais à un moment donné il se dit mais attends, je suis en train de me faire taper par Cerundolo sur le central alors que je suis un des favoris.
Nadal, 14 titres du Grand Chelem, il est arrivé la première.
Et tu penses pas à ton rang quand même?
Jamais.
Au rang que tu dois défendre.
Mais le chiffre que
Arthur Fils a dit en Masters 1000 la dernière fois, il faut que je fasse respecter mon rang. C'est-à-dire qu'il pense quand même.
Oui, mais c'est pour la com.
Certains y pensent quand même.
Le numéro que tu as en face de ton nom, ça n'a rien à voir.
Et puis au tennis, si tu penses comme ça, c'est le meilleur moyen de te planter.
Oui, mais quand tu sors d'une victoire, d'une performance, de quelque chose d'assez extraordinaire.
C'est bien fait. C'est d'avoir joué.
C'est dur de basculer aussi rapidement. Je sais pas comment.
Après,
comment
les très très grands qui sont déjà leaders, mais qui sont en combat avec des mecs de leur camp. Quand il y a une fenêtre qui s'ouvre, il la loupe pas. Je m'explique. Federer en 2009, Nadal il paume.
Ouais.
À Roland, contre Söderling.
Et là il se mentalise pour aller gagner le tournoi là.
Ouais. Bah là, le soir même, il sait que c'est sa seule chance.
Mais là, on parle d'un mec qui est programmé, presque. Il avait déjà une expérience derrière lui.
Moi, j'ai une question pour Zverev. Zverev, quand il se retrouve à Roland Garros, c'est que ça se passe comment il fait pour basculer.
Pareil.
Moi, je trouve que la pression qu'il a, elle est énorme.
Il a galéré. Il a gagné des matchs pendant le tournoi, c'était compliqué. La finale, c'était horrible.
Jusqu'au bout.
Mais il a saisi son truc.
Ouais.
Il l'a fait.
Et là, on voit le mental d'un champion.
Ali sur WhatsApp est un peu provoque. Il dit, vous parlez surtout d'un mal du sportif français parce que dans les autres pays, les gars ne se posent absolument pas la question du leadership. Ils sont là, ils font ce qu'ils ont à faire. S'ils doivent gagner, ils n'ont rien même pas derrière eux. Savoir s'ils ont le moteur ou quoi que ce soit.
C'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai. Il faut arrêter avec ce vieux truc. Je trouve que les sportifs français ont énormément progressé.
On assume de plus en plus le statut de leader.
Bien évidemment.
Wemby, du coup.
Oui, oui.
Même, voilà.
c'est assumé son
rôle. On le dit ouvertement,
à 19 ans quand même, tu vois, c'est pas n'importe quoi. Sur le Tour de France, il devient le patron de l'équipe, on sait que tout repose sur lui, bah il a assumé son truc, il termine 4e du Tour à 19 ans, si c'est pas assumé.
Mais il y a un autre truc, c'est que maintenant les sportifs l'assument, mais que de toute façon l'opinion publique le refuse parfois en disant ouais il se la raconte et on a cette problématique en France par contre inverse, c'est-à-dire que avant on n'assumait pas, maintenant on assume de plus en plus, on le dit même ouvertement et on est critiqué parce qu'on le dit ouvertement.
Tu veux dire quoi, il y a une éducation à refaire en fait.
Il y a une éducation aussi de nos suiveurs, Ali, s'il te plaît,
sur la culture sportive,
s'il te plaît, progresse sur ça, Ali.
Non mais Sarah, toi, quand le tableau s'ouvrait par exemple, c'était plus difficile.
Non, c'est même pas une question s'ouvrait, c'est un match après l'autre en fait, tu te projettes surtout pas. C'est le meilleur moyen de rentrer et d'oublier
les matchs les uns après les autres.
Oui,
l'important, c'est les 3 points.
C'est même, tu penses à un moment quand tu commences, quand tu arrives au bout d'un match et que tu commences à avoir le bras qui tremble, que ton esprit il est brouillé, tu sais plus comment tu veux jouer alors que tu mènes 5-2 au 3e ou 5-4. La première chose qu'on apprend, c'est tu joues
chaque point.
Tu
t'embarques vite en disant bon là j'ai quasiment gagné ce jeu.
Surtout
ouais, derrière, alors moi j'avais un entraîneur et il m'avait donné un truc à un moment donné, c'est quand tu te fais un peu reprendre et que c'est dur à la fois mentalement et physiquement. Il me parlait, il me disait allez 30 minutes. Et il me dit fais l'effort 30 minutes. Il te reste 30 minutes. En gros un set c'est 30-45 minutes. Ouais. Et quand c'était une manière aussi de te
conditionner.
Ouais, de te reconditionner.
En fait, ça te sort de la pression du résultat que tu dois avoir.
Il te reste 30 minutes, il faut que tu tiennes pendant 30 minutes.
Fais l'effort, allez, voilà. C'est dur. Ok, il voit que c'est dur, etc.
Mais parce que t'étais marqué physiquement
ou mentalement, scénario du match et aussi physiquement. Et là, quand il recentrait le débat là-dessus sur la durée, tu te disais, bah ouais, ok, ça fait 2h30, 3h que je joue. Allez, il me reste 30-35 minutes, je les ai.
Objectif court, en fait.
Exactement. Et ça te matérialise et ça m'aidait à pouvoir me remettre dedans.
Dans 30 minutes, en fait, je suis au vestiaire, je suis peinard, je bois un coup.
Exactement.
Je pense à autre chose.
Si je gagne, tu fais l'effort. Mais regarde, si tu fais l'effort comme un dingue, exactement ça. Dans 35 minutes,
les objectifs à court terme.
T'es dans les vestiaires, t'as gagné, et tu vas être super content et de ressentir ce que tu peux ressentir. Et ça te redonnait un peu d'énergie, de trucs, de la concentration.
Moi, j'avais un petit mot qui était sans a priori et sans jugement, ici et maintenant. C'est-à-dire que dès que le point était terminé, d'essayer d'enlever, et je le lisais à chaque fois que j'étais au changement de côté, pour essayer de rester dans le présent, d'enlever si t'avais foiré ou au contraire, t'avais bien joué, t'avais gagné deux jeux.
Mais t'y arrives à chaque fois?
Tu combats.
Mais c'est la théorie. Sur la pratique, tu arrives pas tout le temps, mais au moins ça t'aide.
Mais au moins, t'essaies de mettre ton esprit dans la bonne direction.
C'est le truc qui te tient, quoi. Ça marche pas à chaque fois, mais c'est ce qui te drive un peu.
Mais moi, ce qui est bien, c'est que dans le vestiaire, du coup, je comprends des choses. Avec Christophe, on comprend des choses. Le sujet, c'était la difficulté de prendre le leadership. En fait, pour devenir un leader, il faut pas y penser. Il faut juste assumer le moment et voir.
Le prouver sur le terrain.
Le prouver sur le terrain. Et le résultat, une fois qu'on est sorti du terrain, sera juge de la situation.
C'est les autres qui te mettent dans un rôle de leadership. Mais si toi, tu restes dans le présent, tu restes dans ta performance.
Ouais, là, normalement, ceux qui nous écoutent, qui sont au 10e kilomètre, ils vont aller jusqu'au 40e, je vous le dis, parce qu'ils pensent, allez, 1 km, 1 km, 1 km, 1 km, 1 km, 1 km.
Encore
1 km.
30 minutes.
Et ils vont au bout, encore 30 minutes. Encore 30 minutes des grandes gueules du sport, justement. Restez avec nous sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilino.
Dans un instant, les jeux du sport, on va voir qui est le meilleur. Bennett a été battu la semaine dernière.
Il y a eu quand même une énorme cabale.
Il est parti
à tous les niveaux. Il y a eu une énorme cabale.
Sarah Pitkowski a été très performante la semaine dernière. Elle va devoir assumer un nouveau leadership.
Aïe. Je tiens à dire que hier, je vous ai écouté que sur les jeux et j'avais la réponse de la question impossible.
Ah bah super, parce qu'on a gagné hier.
Johnny Bugno, je sais pas pourquoi je l'avais.
On cherchait le champion du monde 91. C'est bien, tu gagnes les jeux quand t'es pas là. Le football. OM Paris FC.
On ne fiche pas contre moi.
Va pas l'énerver, va pas le surmotiver, il va encore nous mettre une tôle.
Ça veut dire que Bennett, il a le droit de prendre des questions impossibles, même en dehors du tennis alors.
J'aimerais. Je préfère.
On testera ça si tu veux. Allez, le football. OM Paris FC en clôture de la troisième journée de Ligue 1 ce soir, 20h45 sur RMC. Bruno Genesio, c'est enfin quel matériel il a sous la main.
RMC, les GG sur le buzzer.
Je n'ai pas peur de ce bide parce que je sais que ça va être un bide.
J'ai dit que si je quitte le championnat français, il faudra trouver un autre souffre-douleur.
Celui qui pense que ça va être exceptionnel en termes d'ambiance et d'émotion, il se plante.
Non. C'est vrai que ça fait 10 ans que j'entraîne, j'ai pratiquement 300 matchs de Ligue 1.
Faut pas se mentir, faut pas se voiler la face. Il y aura 200 personnes dans la tribune.
J'ai 1,8 points de moyenne depuis 10 ans. Je pense que c'est pas mal.
En pouvoir regarder tout le monde les yeux en face, vraiment...
J'en ai un peu assez que mon travail, mes performances, soient souvent réduits au fait que j'ai une bonne entente avec mes joueurs.
Et attends, on n'a pas vu encore Pêche à l'eau, là, et qui va arriver.
C'est Dutron, lui. Il change, il retourne sa veste plus vite que la musique. Il est capable de changer d'avis comme de paire de chemises. Phénoménal.
On parle bien la France.
Ah ouais, bah, les chemises, ça change par deux, on le sait. Hein.
Ouais.
Ça marche comme ça.
Les yeux en face de quoi? Je sais pas.
Des trous. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouh là là, tu t'es mis, tu t'es remis dedans, hein, mais quel courage. Quel courage. Après les turbulences d'un mercato vertigineux dans le sens des départs, place au jeu à Marseille. Alors les cadres sont partis: Greenwood, Medina, Balerdi, Rouille, Aubameyang, qui a encore marqué d'ailleurs hier soir. Des cadres sont restés aussi: Heuberg, Aguerd, Pachao, zéro recrue. On n'était pas loin du point de rupture avec l'entraîneur Bruno Genesio pendant le mercato, nous a confié le président de l'OM Stéphane Richard dans Rotten sans flamme sur RMC cette semaine. Avec les joueurs restants, quel peut être l'objectif pour l'OM cette saison? Réponse du coach marseillais arrivé cet été.
Parler de Ligue des Champions serait irresponsable pour moi aujourd'hui. Et ce serait mentir à nos supporters en premier et aux gens qui connaissent le foot. Mais on est à l'Olympique de Marseille, on se doit d'être ambitieux. Aujourd'hui, dans un premier temps, mon objectif, c'est d'avoir de la continuité dans notre jeu. Parce que je reste persuadé que si on a de la continuité dans notre jeu, dans les contenus de nos matchs, on aura des résultats. Et après, le football, c'est un sport qui est tellement capricieux qu'on ne peut pas prévoir les choses à l'avance. Fixer des objectifs qui, au départ, paraissent un petit peu utopiques, ce ne serait pas responsable de ma part. Mais je ne vous dis pas qu'on va s'empêcher de rêver.
Pas s'empêcher de rêver, mais parler de Ligue des Champions serait irresponsable pour moi aujourd'hui. Les GG, je vous pose la question. Genesio est-il trop prudent? Fred?
Oui.
Christophe?
Non.
Sarah?
Non.
Bennett?
Pas du tout.
On vous attend au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Alors Fred, le camp du oui, ça m'étonne pas.
Non, mais non, ça peut être un peu caricature.
Mais non, pas du tout. Alors, Fred, t'es dans le vestiaire de l'OM.
Ah, mais moi,
t'entends le discours de Genesio.
Mais moi, ça me dérange. Alors, j'adore Genesio. Hein. Faut commencer par là. J'aime en général son discours. Mais là, on est à l'OM. On a des joueurs qui ont envie d'entendre un discours qui dit on est hyper ambitieux, on a envie de faire des choses extraordinaires. Moi, un mec qui me dit les gars, il faut qu'on soit moyen. Ben, je suis désolé, ça me motive moyennement. Donc, non, moi, je pense que quand t'es à l'OM, t'as besoin d'être un petit peu plus, d'avoir un petit peu plus d'enflammade. Alors oui, on a expliqué tous les soucis qu'ils ont eu, le fait qu'il n'y ait pas eu de recrutement, etc. Mais.
Ils ont quand même gardé,
ils ont quand même une équipe qui est très bien. Lui, c'est un très bon coach. Soyons un petit peu chauds, soyons un petit peu enflammés. C'est l'OM, c'est Marseille, on a envie de ça.
Est-ce que c'est pas ça le problème avant Marseille?
Et encore une fois.
Évidemment, c'est ça.
Oui, mais je suis pas en train de dire qu'il faut devenir complètement fou, mais être un petit peu plus chaud. Un petit peu plus chaud, parce que là, on est tiède.
Mais pourquoi...
Et je suis désolé, pour un joueur, la motivation d'un coach qui a un discours tiédasse,
c'est un supermarché les années précédentes avec un coach
qui c'est pour ça que je t'ai dit,
vous allez monter au rideau,
tu montes au rideau
5 minutes, mais derrière tu...
Manu Petit a dit cette semaine qu'il trouvait Genesio un peu frileux, parce qu'en fait Marseille a finalement gardé quand même des joueurs importants, il y en a beaucoup qui sont partis, mais certains sont restés, et est-ce que Marseille peut avoir moins d'ambition que Lille, Lens, Lyon cette année?
Oui.
Absolument.
Bah oui.
C'est-à-dire que l'OM peut pas jouer les premières places. Impossible.
Si l'OM finit troisième cette année, c'est une statue à Genesio. Ouais. C'est le meilleur entraîneur de France. Vous vous rendez pas compte. Ils ont gardé. L'OM, ils doivent s'appuyer sur 5-6 joueurs. Ok. Emerson, Aguerd, Vea, Hojbjerg, Pechao, Guiri. Les trois en défense, il n'y a pas de doublure. Il y a l'Europa League le jeudi. Il va y avoir des blessés, il va y avoir des suspendus. Ils n'ont pas d'équipe. Arrêtez de dire qu'ils ont une équipe. Ils ont 10 joueurs, 11 joueurs maximum pour
ils
faire tourner.
Ils ont un blessé.
Le reste,
Lille,
c'est terminé.
Attends, mais Lens et Lille, ils vont jouer la Ligue des Champions. Regarde, Lens, ils ont des blessés encore hier.
Ils ont un meilleur effectif. Ils ont plus de bancs pour faire tourner. L'OM, ils ont rien.
Tu ne penses pas que la Ligue des Champions, c'est énergivore et que ça peut te permettre justement de perdre un peu de...
Mais moi, l'OM, j'ai un gros problème avec ce qu'a dit le président. C'est qu'il a dit il faut jouer l'Europa League à fond. Surtout pas. Cette année, cette année, l'Europa League, le jeudi, mets tes jeunes, montre-les, fais-leur gagner de l'expérience, fais-les progresser, qui vont t'aider en championnat, et tu mets Aguerd, Hojbjerg et compagnie au frigo le jeudi. Ils font même pas les déplacements.
À ce moment-là, si tu mets tout le monde au frigo le jeudi, t'es pas avec ce 11-là, par exemple, t'es pas performant en Ligue 1.
Là, oui.
Ah bah
là, mais
donc ça veut dire
top,
que tu peux quand
top
même.
Top 4, mais la Ligue des Champions.
Bah, top 4, c'est la Ligue des Champions.
Ouais, mais je suis d'accord avec Jésus. Franchement, moi, s'ils finissent 5e ou 6e, c'est une énorme saison. Une énorme saison.
Mais tu es tiède, Bennett, tu es tiède. On a envie de la chaleur. Voilà, non, c'est ça qu'on veut, c'est de la folie.
Mais Genesio, c'est le bon entraîneur, franchouillard, les pieds dans la gadoue. Qui dit les choses vraies, qui raconte pas des bobards, et aux supporters et aux joueurs, comme le faisaient les deux Herbi, les Gattuso et tout ça.
De temps en temps, pour motiver tes joueurs, t'as besoin d'avoir un peu de feu.
Mais ambitieux, Genesio.
Mais si t'es pas. Je pense que l'ambition,
elle. Si t'es pas au niveau de ce que ton entraîneur croit que tu es ou te fait croire que tu es, au bout d'un moment, la réalité va finir par te rattraper.
Ça vient juste de commencer, on ne sait pas, on verra.
Je pense que l'ambition va venir en fur et à mesure de la saison.
Comme Giroud disait, on joue le maintien à la grande époque. Évidemment, il jouait plus que le maintien, mais il ne le disait pas, il ne l'annonçait pas en début de saison. On va être en Ligue des Champions.
Et ben, c'est pour ça que je voulais dire que pourquoi je réponds non, c'est parce que Genesio a été interviewé le 5 septembre. Aujourd'hui, on est le 6 septembre. Ils sortent quand même de 10 jours où il y a eu une pression qui n'était pas évidente. Ils ne savaient pas avec quel effectif il allait pouvoir jouer. Jusqu'au dernier moment, il fallait vendre. Et puis après, il fallait. Stéphane Richard est venu ici dire que il a dû parler avec le propriétaire, essayer de lui faire dire qu'il fallait garder des joueurs. Il y a eu quand même 10 jours de tension. On en a même été à dire Genesio, est-ce qu'il va jeter l'éponge?
Ah bah, parce que lui avait dit pour l'instant il n'était pas question de démission, ce qu'il avait dit à ce moment-là.
Il y a plein de messages contradictoires. Je pense que le message de Genesio, c'est juste de baisser la température. Voilà, c'est juste de redescendre et effectivement c'est lançons la saison avec cette équipe-là, voyons s'il va avoir des blessés. Et puis il y a un autre mercato cet hiver, donc l'argent il est toujours pas arrivé. Donc en fait il y a tellement d'incertitudes que de lancer comme ça vite fait en disant oui on a les capacités,
il
n'y
a pas d'autre choix pour
mais Sarah, en fait ce que tu es en train d'expliquer, c'est que c'est un principe de précaution. Donc il est prudent. Donc il est trop prudent. Donc à l'OM, on a besoin d'avoir autre chose.
Est-ce que vous pensez que le discours est le même dans le vestiaire?
À l'OM. Oui.
J'espère que non. Moi, j'espère que non. J'espère qu'encore une fois, à tes joueurs, tu vas pas leur dire, on veut qu'on soit moyen. On veut pas être moyen.
On va être ambitieux, mais on va pas être utopique, en fait.
Mais je pense que.
Franchement, la marque est très fine. La marque est très fine entre utopique et ambitieux.
Je pense que Genesio fixe des objectifs à court terme. Parce qu'encore une fois, il a pas un effectif pléthore pour jouer tous les matchs, toutes les compétitions de la saison, peut-être que son discours, il est à court terme.
Même pas, parce que dans la même interview, dans la suite de l'interview, il explique ce qu'il attend. Et en fait, il a dit, si on atteint ça, après on verra.
On fixe d'autres
exactement.
Jeux en escalier.
Et lui, il a dit, je veux de la continuité dans les performances, et je veux de la continuité dans le jeu, parce que c'est comme ça qu'on aura des résultats. En fait, lui, il met pas un objectif chiffré pour l'atteindre, il part du comment pour essayer d'atteindre quelque chose. Et je pense que c'est la très très bonne méthode à faire, surtout avec cet effectif-là.
Genesio est-il trop prudent avant Marseille-Paris FC ce soir à 20h45? Vincent, supporter à Marseille, nous appelle de la Marne. Salut Vincent.
Bonjour.
Salut. Bon, qu'est-ce que t'en penses du discours de Genesio? Tu penses qu'il peut pas dire autre chose?
Mais je pense qu'il faut lui tirer le tapis, le lui cirer ses pompes.
Ah oui.
Mais bien sûr que oui. Mais vous êtes sérieux? Il faut se rendre deux secondes à l'évidence d'un truc. C'est que le gars à la base il devait arriver avec une équipe pour jouer la Ligue des Champions. Aujourd'hui il a une équipe qui est même pas capable de gagner la Coupe de France.
Ça fait un moment que Marseille n'a pas gagné la Coupe de France, donc effectivement.
Non, mais on n'était pas loin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de niveau, quoi. On vend à pléthore de joueurs sans racheter de joueurs derrière. On passe d'un effectif de 27 joueurs à un effectif de 15 joueurs professionnels. Et on remplace Greenwood par Kylian Abdallah. Alors je l'aime bien, lui. Hein.
Qui vient du centre de formation, hein, effectivement, qui a marqué sur le premier match contre Strasbourg.
Oui, bien sûr, c'est le neveu de Maoudida, la belle histoire, ceci, cela. Mais les histoires, on s'en fout. Histoires, elles sont belles quand elles sont réussies. Là, aujourd'hui, je vous jure que je ne regarde même plus un seul match.
Ouais.
Je me suis désabonné de tous les trucs parce que ça me gonfle. C'est pire que les feux de l'amour.
Non, mais ça veut dire que toi, en fait, Vincent.
Les pieds amoureux.
C'est-à-dire que la saison de transition, parce que là, en fait, ce qui venge les yeux, c'est la saison de transition. Non, mais en fait, elle t'intéresse pas, Vincent. Ça t'intéresse même pas.
C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'aime tellement le foot et j'aime tellement l'OM que j'ai même pas envie de me faire du mal.
Ouais, mais c'est non mais je comprends. Mais
bien sûr,
je
comprends tout à fait. Lui aussi, il est prudent sur ses émotions, tu vois.
Non mais je comprends.
Ouais, justement, Vincent, c'est une erreur. C'est justement parce que Genesio, il a cette attitude et ce discours que t'es comme ça. Si peut-être qu'il si t'avais été enflammé depuis le début en disant peut-être, allez, on va se battre, etc.
Il croit Vincent à ces trucs. Vincent a trouvé des théories complètement.
Au contraire, c'est Genesio qui me rassure.
Ah mais pareil,
qui te rassure pour plus regarder les matchs.
Mais oui, mais
moi, je suis désolé, j'ai déjà été coach de foot dans un niveau régional, ok.
Ouais.
Et quand je savais que j'avais une équipe en face de moi qui était beaucoup plus forte que la mienne, je leur disais aux gars, je leur disais, vous êtes pas les meilleurs, mais si vous respectez ce qu'on vous demande de faire, et si vous travaillez bien à l'entraînement, et ben vous peut-être qu'on réussira à faire quelque chose, mais ça viendra que de votre tête, ça viendra pas forcément que de vos pieds.
Exactement. Tiens, Sébastien là, sur WhatsApp me dit, je suis souvent d'accord avec Bennett, mais là je ne comprends pas des équipes avec des effectifs improbables ont réussi à contester le PSG ces dernières années. C'est la cohésion, l'état d'esprit, l'alchimie qui peuvent permettre d'aller plus loin. Réussir à construire une équipe de copains, c'est pas un problème de budget. C'est pas un problème de budget.
Mais ça,
ça rejoint ce que je dis.
Non, ça, tu peux le faire. Tu peux le faire et tu peux le créer sur la saison.
À la mi-saison, quoi, tu me diras.
Mais c'est sans annoncer que tu vas la faire en Ligue des Champions.
Disant, voilà, parce que si tu annonces pas des grands champions, voilà, mais je suis sûr que si avec une bonne entente.
Oui, mais la semaine dernière, tu disais
à des grandes choses.
Je vais attendre la fin du mercato pour donner mon avis. Vous disiez ça avec Pascal. Ton avis, quand même, il est un peu plus ambitieux aujourd'hui que la semaine dernière où on pensait que Pachao allait partir. Pachao, comme tu l'appelais.
Top 6, oui, mais non, moi.
Mais top 6, on est quand même pas loin de la vérité pour la Ligue des Champions.
Honnêtement, ce soir, non mais pour X raison, Aguarde, il joue pas ce soir. Il est toujours blessé, on sait pas ce qu'il a. La défense centrale, ça va être Egan Riley avec je sais pas qui, Kondogbia est blessé, avec un jeune du centre de formation. Bon, bah, excuse-moi, le PFC en face, sur certains secteurs, ils ont une meilleure équipe que l'OM. Ils ont et le niveau de jeu.
Qui a une meilleure équipe que l'OM?
Mais ce soir,
Paris FC,
ce soir le PSG,
Lens, Lille, Rennes,
Monaco,
Paris,
mais ça c'est sur le papier. Moi,
donc
ça,
voilà,
ça me dérange.
Après, il peut se passer des choses.
Moi, ça me dérange complètement de dire sur le papier on est moins fort. Moi, tous mes coachs, tous les gens qui m'ont motivé, n'arrêtez pas de me dire on est. Mais comme eux, on est à 11 contre 11, on va voir ce qu'on peut faire.
Mais Genesio, il va avoir ça comme discours.
Et on veut la Ligue des Champions.
Il va l'avoir comme discours. Mais je pense que l'ambition va arriver plus long, mais dans la saison. Mais oui, il y a une sorte de dépit amoureux, il y a une sorte de qualité de jeu affichée, qui fait que aussi au bout d'un moment, tu attends avant de regarder.
Tu n'as pas forcément le même discours vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis de ton groupe aussi. Je pense pas qu'il leur dit vous êtes des tocards, vous allez arriver à rien.
Quand Fred a dit ça tout à l'heure, tu n'es pas d'accord avec lui.
Ouais, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure.
Hein. Non, non.
Ça fait plaisir que vous ne m'écoutiez pas du tout dans cette émission. C'est insupportable.
Tu dis trop de bêtises. La balle perdue à Sarah à chaque fois. Je remercie Vincent d'avoir été avec nous au 32-16. Je rappelle les résultats hier. Lens a trébuché. Lens a perdu face à Lorient à domicile. Hein. Mm-hmm. Défaite 1-0. Donc voilà, les autres équipes ne sont pas forcément au rendez-vous. Brest a gagné au Havre 2-1. Un partout entre Nice et Le Mans. À 15h, 3 Strasbourg. Angers, Rennes 17h15, Marseille, Paris FC 20h45. On en profite pour saluer les supporters niçois qui ont rendu un super hommage hier soir aux victimes de l'attentat il y a 10 ans. Évidemment, on pense fort à eux. On revient dans un instant pour les jeux du sport sur RMC. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilino.
Les grandes gueules du sport, je vous rappelle le rendez-vous à ne pas manquer sur RMC. Hein. Tout à l'heure, 15h, Grand Prix de Monza avec un Français, Pierre Gasly, en pole position. Ce sera à vivre évidemment sur RMC. Tout de suite, les jeux.
RMC, les jeux du sport.
Deux contre deux, vous défendez un auditeur. Les équipes, Julien Beneteau avec Fred Weiss, Christophe Cessieux. Avec Sarah Pitkowski. Là, Fred, il s'est imaginé dans la raquette et tu vas lui faire une passe tranquille, tu vois.
Tu vois, c'est mon leader, je suis tranquille, moi.
Ah, ben là, t'es peinard. Ah, tu te mets dans l'ombre, t'attends.
Je suis plus content.
Ça dépend, c'est une cabale comme la semaine dernière.
La vitesse de l'éclair, comme d'habitude.
Je rappelle que. Mais pourquoi tu pars perdant comme ça? Je rappelle que la question impossible.
Comme Bruno Genesio, excusez-moi, c'est ma tactique.
Eh ben, comme tu vois, qu'elle est pas bonne.
Question impossible.
La semaine dernière, j'ai gagné.
Activable par un seul joueur par émission, le seul à jouer. Une bonne réponse, c'est 3 points. Une mauvaise, c'est moins 1 point. Les auditeurs, Chris nous appelle de Vendée, Valentin du Rhône. Salut les amis.
Salut.
Chris, c'est toi qui as appelé en premier. Tu veux être avec l'équipe Cessieux, Pitkowski ou Beneteau Weiss?
Benetto Weiss.
Ah, il écoute, Chris, les grands vieux du sport.
Benetto tout court.
Et Valentin, allez, donc.
La question impossible Chris. Pour moi.
C'est vrai ouais, question impossible pour commencer. Allez, c'est parti. Ouais, ça, c'est j'ai même pas eu le temps.
Ouais, mais
je me suis fait. Valentin est avec l'équipe, c'est Supikowski. J'ai même pas eu le temps de dire qu'aujourd'hui, le cadeau, c'est une cave à vin, douce silence de la sommelière. Question impossible.
T'as commencé à moisin, c'est top.
Alors, ce ne sera pas une question vélo pour Christophe Cessieux aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que je n'allais pas préparer. Donc, ce sera une question rugby, parce que c'est également la particularité de Christophe qui présente Entre les poteaux tous les lundis sur RMC, qui est l'une des voix du 15 de France.
Christophe,
la France s'est inclinée à la dernière Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud.
Tu veux le score, je sais.
Mais a marqué 3 essais. Qui sont les marqueurs?
Les essais.
Revisionne le match.
Bon, je sais. Je te donne encore 10 secondes pour répondre.
10 secondes, c'est long, hein.
Penaud.
Contre l'Afrique du Sud, quand on perd.
Penaud Ramos.
Penaud Ramos.
J'y suis pas.
C'est Baye Movaka. Un point en moins pour l'équipe. Alors, c'est sûr. Pitkowski.
0-1 ou 1-0
0-1. C'est bon, c'est pareil en vrai.
C'est oui, mais c'est pour les auditeurs.
Parce qu'il est chiant. En fait, il s'est rendu compte, que sa question était éclatée quand il l'a posée. Allez, c'est parti. 0 pour l'équipe Benetto Weiss, moins 1 pour Cécile Pitkowski. Question à une seule réponse. Qui remplace Isaac Hadjar dans sa Red Bull? Ouais, Pitkowski. 0-0, du coup, entre les deux équipes.
Elle est précision.
Elle aujourd'hui, elle est énervée en plus. Question
à 0-0.
Question à plusieurs réponses. Où se déroulent les mondiaux de judo qui se disputeront sans Teddy Riner?
En Suisse.
Tbilissi.
Non.
Baku.
Baku. Wow. Et ouais, il est là, Fred. Premier point marqué par l'équipe Benetto Weiss.
C'est
marqué par Weiss.
Tu m'as bien emparé des scores là.
Kylian Verhoeven.
C'est tout pour moi.
Ah non,
moi j'aime bien
il a préparé son émission, il l'a préparé. On devait parler de Teddy Riner, on l'a pas fait. Question auditeur, c'est pour vous, Chris et Valentin. Allez, vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom, comme ça je peux déterminer qui a donné la réponse. Les gars, Chris et Valentin, quel cycliste est sorti de l'hôpital après une opération de la clavicule cette semaine?
Pogacar.
Valentin en premier.
Mais non.
Si, il a dit son prénom. Il a dit son prénom. Un partout entre l'équipe Benetto Weiss et Cessieux Pitko. Question à une seule réponse. Pogacar va donc laisser sa tunique de champion du monde après 2 années, puisqu'il est forfait. Qui l'a porté juste avant lui?
Levé le ball.
Non, éliminé.
Mince.
Non, tu peux pas en donner une deuxième. Non, tu peux pas.
Wout van Aert.
Non, éliminé.
Vanderpool.
Gilles Benetto. C'est les règles du jeu, Christophe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Non, commence pas.
Ah, commence pas.
2-1
pour l'équipe Benetto Weiss. Question à plusieurs réponses. Pas facile. Mais comme ça, on voit que vous bossez ou pas. Van a retrouvé le top 14. Il joue dans quel stade?
L'Arabie.
Benette. Comment tu dis, Benette?
Juste après.
Ah, la condescendance, j'adore. J'adore être dans son équipe. Moi, je suis mauvais, mais juste après toi aussi.
Allez, Christophe, on lâche rien.
Fred se rend compte qu'en fait, Benette est un gros trash talker.
J'adore.
Question auditeur, c'est pour vous, Chris et Valentin. Chris et Valentin, votre réponse et votre prénom. Je veux le nom, s'il vous plaît, de la ville où se dispute ce dimanche le Grand Prix de Formule 1.
Monza, Valentin.
Bon, Valentin. 3-2.
Allez.
Ça revient pour l'équipe, c'est sur Pitkowski. Question élimination pour 2 points.
Oh là là.
Vous répondez à tour de rôle une erreur et vous êtes éliminé. Reprise du top 14 ce week-end. Citez-moi tous les finalistes du top 14 depuis 30 ans. Il y en a 15. Christophe, c'est sûr.
Toulouse.
Ça marche. Fred.
UBB,
ça marche. Sarah.
Castres
Olympique, ça marche. Bennett.
Depuis quand t'as dit?
Depuis 30 ans.
Donc 30 ans. Biarritz.
Biarritz, c'est bon. Christophe.
L'ASM. Clermont Auvergne.
À Monaco. Ouais. Fred.
Montpellier,
c'est bon, dernier finaliste. Attends. Sarah.
Stade français,
c'est bon. Bennett.
Racing.
Racing 92, c'est bon. Attention, on passe à 5 secondes pour répondre. Christophe.
L'USAP.
L'USAP, c'est bon. Je l'ai pas, mais c'est bon. Oui, c'est bon, je l'ai. Fred. 5, 4, 3, 2.
J'ai pas.
1, éliminé. Sarah.
La Rochelle,
c'est bon, évidemment, le Stade Rochelet. Bennett, 5. Reste qui? 4.
Toulon.
Toulon, ah, c'est bon. Christophe, 5 secondes. 5. 4.
Le
Racing, 3,
on l'a dit.
2. 1. J'ai plus. 0. Éliminé. Oh Sarah.
Enlevez le, il m'a enlevé le.
Toulon, on l'a dit. Le Racing.
4. Racing, déjà dit. Bennett, balle de match. 5. 4. 3.
Depuis 30 ans, je dirais. 2. Grenoble.
Grenoble, c'est pas bon. Et bah donc.
On a égalité.
Personne ne marque de points. On reste à 3-2.
Il manquait qui, là?
Là, tu es resté Brive, Vaux-Roy-Jallieu, Colomiers et Agen. C'était les plus difficiles. Question à... Il reste quoi? Il reste une minute. Question auditeur. C'est pour vous, Chris et Valentin. Voilà, Chris et Valentin.
Allez, Valentin.
Qui est...
Allez,
Valentin. Chris et Valentin. Qui est le leader de la Vuelta en ce moment?
Valentin, ils n'ont pas trouvé une réponse, et que Valentin, égalité.
Il reste 50 secondes. Question à plusieurs réponses. C'est un qui a dit cette semaine sur RMC, ils m'ont proposé une troisième fois de revenir quand ils étaient en Ligue 1 la saison dernière. Camboiré.
Oui, Sarah, mais c'est énorme.
Enchaîne.
Victoire de l'équipe Pitkowski, messieurs. Victoire de Valentin. Félicitations.
Les jeux du sport sur RMC avec la sommelière. Des caves à vin innovantes de marque française pour conserver vos bouteilles chez vous. Rendez-vous sur lasommelière.com.
C'est Kylian Vera, notre producteur, je balance, qui a sifflé le coup de sifflet final. On va mettre une petite nouveauté à partir de la semaine prochaine, je vous préviens. On va mettre une sirène, comme au rugby, comme ça vous saurez que c'est la dernière question. C'est là où tout se joue. Bennett, merci d'avoir été là avec nous, t'as été extraordinaire aujourd'hui. Et il part de très bonne humeur, qui le caractérise, évidemment. Merci Sarah Pitkowski, merci Fred Weiss, et bravo Christophe Cessieux qui gagne les deux jeux du week-end.
Il a été
nul, mais il a gagné les deux jeux du week-end. Allez, les paris RMC arrivent tout de suite. Yoann Bredov.